France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un savant mort au début de la Seconde Guerre mondiale, donc à une époque où la lampe électrique avait été depuis longtemps inventée, mais il n'en usait pas de cette lampe électrique. Il préférait, ce savant, la bougie et la lampe à huile. Un savant qui, semblait-il, terrible défaut, n'aimait pas la radio. Ce qui l'intéressait seulement, c'était qu'elle puisse sauver des vies humaines. Il n'aurait sans doute pas goûté certains programmes, indiquait l'invité de l'émission Les Ch'timis de Paris sur Radio Nord le 1er janvier 1950. C'était bien le droit de ce savant de ne pas aimer la radio. Mais c'est grâce à lui que nous pouvons l'entendre, la radio, que vous pouvez nous entendre et que vous allez donc pouvoir entendre sa propre voix à ce savant et celle de sa fille, Jeanne Terra Branly, puisque le savant est bien Édouard Branly.
Madame Jeanne Terra Branly est près de nous aujourd'hui pour évoquer quelques souvenirs sur son père, Édouard Branly. Elle a d'ailleurs déjà consacré un livre à ce père, à ce grand savant dont la France s'honore et que le Nord plus particulièrement est fier de compter parmi ses glorieux enfants. Vous le savez tous, c'est grâce à la découverte d'Édouard Branly, père de la TSF comme il est convenu de l'appeler, que vous pouvez entendre les voix de ceux qui vous parlent à la radio. Dans quelques secondes, ce sera la voix de Madame Terra Branly. Et à l'instant même, la voix d'Édouard Branly.
Je suis heureux de saluer ici la naissance de la Corporation de la Télégraphie sans fil. Pour la première fois aujourd'hui, nous voyons grouper tous les artisans de la radio, aussi bien manuels qu'intellectuels, chercheurs, techniciens, compositeurs, auteurs, artistes, journalistes, simples auditeurs. Parmi ces artisans, il est même des héros. Ces admirables radiophonistes de l'aviation, de la marine, de la guerre. Non contents d'être unis, les artisans de la radio ont voulu avoir une âme commune. Or, c'est de toute cette âme qu'ils s'inclinent et que je m'incline avec eux devant Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, patronne de la radio.
Après cette évocation émouvante de la voix de votre père, Madame Terra Branly, j'aimerais tout d'abord que vous nous précisiez les rapports d'Édouard Branly avec le Nord. De quelle région était-il exactement ?
Mon père est né à Amiens le 23 octobre 1844, rue Martin Bleu-Dieu. Son père, bon papa comme nous l'appelions, était à ce moment professeur au lycée d'Amiens. Il était lui-même ainsi que sa femme originaire du Pas-de-Calais. Et ils étaient tous deux issus de familles terriennes profondément attachées à la Picardie. Ce fut mon grand-père qui le premier quitta la terre pour exercer une profession intellectuelle.
Est-ce que c'est à Amiens que s'écoula l'enfance d'Édouard Branly ?
Oh non, il n'y resta que quelques années, car mon grand-père fut nommé au lycée de Saint-Quentin. C'est donc à Saint-Quentin que mon père fit ses études et commença à donner la première mesure de ses capacités, en enlevant tous les prix d'excellence.
Il était déjà très doué pour les sciences ?
Il était surtout très brillant en lettres, et son père aurait voulu le voir suivre la même carrière que lui. Mais il avait une attirance particulière pour les sciences et il choisit pour entrer à l'école normale la branche qu'il préférait. Reçu quatrième au concours d'entrée, il en sortit premier.
Était-il resté très attaché à son Nord ?
Certainement. Il revendiquait ses origines picardes et a toujours gardé l'amour du pays de ses ancêtres. Il était très fier d'être du Nord. Il disait qu'on y trouve des qualités profondes de travail, de sérieux. Qualités qu'il tenait en grande estime. D'ailleurs, du Nord, il avait hérité l'âpreté au travail, la patience, le goût de bien faire sans rien laisser au hasard. Aussi, il était très obstiné dans ses croyances et dans ses opinions. Du Nord également, il avait hérité une santé magnifique, qui lui a permis de mener sa tâche à bien et de vivre jusqu'à l'âge de 95 ans, toujours en merveilleux appétit. Il n'était pas question de régime, je vous assure. Un poulet entier ne faisait pas peur. Et quand par hasard il était question de pigeon, il s'écriait sur un ton de suprême dédain, « Un pigeon, qu'est-ce que c'est que ça ?»
Est-ce que la vie était très austère chez vous ?
N'allez pas croire que mon père fut toujours grave et sérieux. Souvent, au milieu des siens et de ses amis, il se détendait. Il manifestait un certain humour, une fantaisie pince sans rire. Ce sont aussi des qualités des gens du Nord.
Est-ce qu'il avait le temps de s'occuper de ses enfants, de mener une vie de famille?
Il s'occupait beaucoup de nous. Il avait le génie de savoir distraire les enfants. Il inventait toutes sortes de jeux. Mais c'est évidemment de notre travail qu'il s'occupait le plus. Il tenait absolument à ce que chacun fît bien ce qu'il avait choisi de faire. Il nous conduisait chaque jour en classe, en lisant le journal, marchant à si grand pas que nous pouvions à peine le suivre. Mais auparavant, il nous faisait faire de l'allemand en supplément, chaque matin, à 7h jusqu'à 8h moins le quart.
Mais ça devait être gai.
Dans le salon sans feu où nous récitions nos verbes, nous trouvions quelquefois le temps long. Cependant, nous étions habitués à aimer le travail. C'est ce mot « travail » qui a marqué toute notre vie de famille.
Est-ce que votre père vous faisait aussi faire de la musique?
Ah oui, j'ai appris le piano, mon frère a appris le violon. Il tenait à ce que nous soyons de bons exécutants. Il soignait lui-même notre éducation musicale et tint à nous faire connaître l'essentiel du répertoire de l'opéra comique. 3 ou 4 fois par an, il nous y conduisait et il lui appréciait lui-même beaucoup de spectacles.
Est-ce que vous avez gardé le souvenir de quelques représentations plus particulièrement?
Oui, je me souviens du Chalet, des Dragons de Villars, qui nous avait laissé une impression particulièrement agréable.
Madame Théra Branly, vous considériez le grand savant comme un papa, évidemment, un papa d'alors, qu'on aime mais qu'on respecte avant tout. Mais aviez-vous recueilli quelques échos de sa découverte, de cette découverte qui a bouleversé le monde moderne en dotant les humains d'un sixième sens, comme vous l'écrivez dans votre livre? Est-ce que ce fut un événement dans votre famille?
Pour mon père, ce n'était pas un événement, comme on pourrait le croire, mais simplement un résultat. Le résultat de nombreuses recherches poursuivies de longue date. Il disait lui-même, ne croyez pas à un miracle, ni au hasard. Sachez cette vérité élémentaire que pour trouver, il faut chercher. Et j'ai beaucoup cherché.
Est-ce qu'il s'occupa des applications pratiques de sa découverte? En retira-t-il quelque avantage au point de vue matériel?
Vous savez, il laissa à d'autres le soin de tirer les conséquences pratiques de son principe. Marconi en particulier entrevit pour l'avenir une liaison désormais possible entre les pays et les hommes. Et le 28 mars 1899, 9 ans après la découverte initiale de mon père, ce fut la première dépêche envoyée par radiocommunication. Partie de Douvres, elle arriva à Vimereux dans le Pas-de-Calais, pays d'origine d'Edouard Branly, c'est à lui qu'elle fut adressée. Tenez, voici le texte.
Monsieur Marconi envoie à Monsieur Branly ses respectueux compliments par la télégraphie sans fil à travers la Manche. Ce beau résultat étant dû en partie aux remarquables travaux de Monsieur Branly. Eh bien, Marconi savait rendre à César. Branly a-t-il connu Marconi?
Oui, il est venu un jour rendre visite à mon père dans son laboratoire. Pour lui proposer de faire partie du conseil d'administration d'une société de TSF qu'il fondait. Les appointements étaient considérables. Mon père refusa, car il ne voulait pas accepter des appointements non justifiés par son travail. Ainsi, il ne tira jamais aucun profit pécuniaire de sa découverte.
On a beaucoup dit que Branly n'aimait pas la radio, est-ce vrai?
Oui, ce qui l'intéressait avant tout, c'était la possibilité de sauver des vies humaines. Des navires en détresse grâce à la TSF. Il n'aurait certainement pas goûté certains programmes.
Est-ce qu'Edouard Branly était très grand-père?
Il aimait jouer avec ses petits-enfants comme il l'avait fait avec ses enfants. Il leur racontait des histoires drôles et leur donnait des objets extraordinaires. Des crayons, des morceaux de buvard et même une fois des petites bouteilles d'encre rouge ou verte que les enfants avaient dissimulées soigneusement dans leur poche. Jusqu'au jour où il y eut un drame. Les bouteilles s'étant renversées.
Je comprends ça. Est-ce qu'il s'occupait aussi de l'instruction de ses petits-enfants?
Naturellement. Il fallait le tenir au courant des progrès accomplis par chacun. Et aux fêtes ou anniversaires, chacun devait jouer son petit morceau.
Et vous-même avez continué à jouer du piano?
Nous faisions avec mon mari et mon frère de la musique d'ensemble. Et nous donnions quelques séances familiales auxquelles mon père assistait avec plaisir.
Édouard Branly vivait-il avec son temps? Usait-il des derniers progrès de la technique?
Jamais il ne s'est servi de lumière électrique pour s'éclairer. Ça lui fatiguait la vue. Il préférait les bougies et pour travailler la lampe à huile. Quant au sport, il n'a jamais voulu que nous apprenions à nager. Car, disait-il, c'est le meilleur moyen de se noyer. Un nageur prend des risques en allant trop loin.
Est-ce qu'il prenait tout de même quelques distractions?
Il aimait bien aller voir quelques routes villes qu'il délâchait. Il faut bien entendre de temps en temps quelques bêtises, disait-il. Il aimait aussi les opérettes de l'époque, comme la mascotte.
Édouard Branly avait-il gardé des contacts avec ses concitoyens du Nord?
Tant qu'il garda de la famille dans le Nord, il nous emmenait aux vacances à Saint-Quentin. Et à Paris, il faisait partie de la Société amicale des Francs Picards, qui organisait des fêtes ou des banquets en son honneur. Ainsi, le banquet du Flip, car la société ne manquait pas une occasion de célébrer le grand homme qu'elle était très fière de compter parmi ses membres. Les Rosati vinrent aussi fêter le vieux maître en son laboratoire. C'était en février, et les roses traditionnelles durent être remplacées par des violettes, que les dames Rosati vinrent déposer devant mon père sur son bureau. Il y eut plus de 100 bottes de fleurs. C'était vraiment touchant de voir ce noble vieillard se tenant droit au milieu de cet amoncellement de fleurs. Lorsque ce fut fini, il me dit « En général, on ne donne des fleurs qu'aux femmes. Mais il est vrai que la science en est une. »
Et c'est pour rendre hommage à cette science, en la personne d'un de ses plus glorieux représentants, qu'à la mort d'Édouard Branly, le peuple de Paris défila des heures dans le fameux laboratoire où reposait son corps avant d'être conduit à Notre-Dame pour de grandioses et émouvantes funérailles nationales.
C'était les Ch'timis de Paris, Madame Jean-Théra Branly, à propos de son père, Édouard Branly, sur Radio Nord le 1er janvier 1950. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.